Chapitre 6. Pourquoi notre société reste-t-elle sans réaction face à la généralisation des emplois inutiles ? Comme ils sont prétentieux, ces peuples des Indes orientales, qui pensent que les grands singes et les babouins, si abondants autour d'eux, possèdent l'intelligence et la faculté de langage, mais s'abstiennent de parler de peur d'être exploités et mis au travail. Antoine le Grand, vers 1675. Les chapitres précédents nous ont permis d'explorer les forces économiques et sociales qui ont encouragé la prolifération des jobs à la con. Nous y avons aussi analysé la souffrance et la détresse que ces jobs suscitent chez ceux qui en sont prisonniers. Ce sont des maux flagrants et largement répandus. Pour autant, à ce jour, le fait que des millions de gens se rendent chaque matin au travail avec le sentiment de n'y servir à rien n'a semblé représenter un problème social pour personne. On n'entend pas d'hommes politiques dénoncer ce phénomène. On ne voit pas de chercheurs se réunir en colloque pour réfléchir aux causes de son expansion. On ne lit pas de tribunes d'opinion mettant en évidence ses répercussions sur le plan culturel. On n'assiste pas à l'émergence de mouvements protestataires appelant à son éradication. Bien au contraire. Si tant est qu'ils interviennent sur le sujet, tous ces acteurs, la classe politique, les universitaires, les éditorialistes, les mouvements sociaux, le font généralement pour aggraver le problème directement ou indirectement. Les conséquences sociales de cette situation à grande échelle sont encore plus extraordinaires. Nous avons vu que pas moins de la moitié du travail que nous effectuons pourrait être éliminé sans aucun effet significatif sur la productivité globale. S'il en est ainsi, pourquoi ne nous contentons-nous pas de répartir la fraction restante de telle manière que tout le monde puisse faire des journées de 4 heures, ou des semaines de 4 jours avec 4 mois de vacances par an, ou quelque autre aménagement sympathique de ce genre? Pourquoi n'en profitons-nous pas pour mettre à l'arrêt la machine à travailler mondiale? Déjà, ce serait probablement l'un des moyens les plus efficaces pour stopper le réchauffement climatique. Il y a 100 ans, beaucoup imaginaient que, à l'heure où nous nous trouvons, les progrès constants de la technologie et de l'automatisation auraient rendu tout cela possible. Ironiquement, ils avaient sans doute raison. Nous pourrions tous, aujourd'hui, ne travailler que 15 ou 20 heures par semaine. Sauf que, pour quelque obscure raison, notre société a fait un autre choix. Nous avons décidé collectivement qu'il valait mieux affecter des millions de gens, pendant des années entières, à des tâches à la con, comme rentrer des chiffres dans des tableurs ou préparer des cartes mentales pour des réunions marketing, plutôt que de les laisser libres d'apprendre le tricot, de jouer avec leurs chiens, de monter un groupe de rock expérimental, de tester de nouvelles recettes ou de traîner dans les cafés à refaire le monde et à cancaner sur les amours polygames de leurs potes. Il y a un moyen très simple de comprendre pourquoi c'est la première option qui a été retenue. Avez-vous jamais lu dans la grande presse un billet d'opinion sur le thème « Il y a des gens qui travaillent trop dur et qui feraient bien de ralentir » ? Non, évidemment. En revanche, il n'y a qu'à se baisser pour trouver des articles stigmatisant certaines catégories, les jeunes, les pauvres, les bénéficiaires d'une aide sociale quelconque, une nationalité ou un groupe ethnique spécifique, les traitant de « feignants » ou de « nantis », les accusant de ne pas avoir la niaque et d'être incapables de gagner leur vie. Internet en est jonché. Rappelez-vous la colère de Rachel au chapitre 4. « C'est vrai, quoi, merde ? Vous ne pouvez pas passer 2 minutes sur Facebook sans tomber sur un post moralisateur comme quoi on se croirait tout permis et ça nous ferait mal aux fesses de bosser ne serait-ce qu'une journée. » Dès qu'une crise survient, cela inclut les crises écologiques, on entend des appels au sacrifice collectif. Et ce sacrifice semble toujours consister à travailler davantage, alors même qu'une réduction massive du nombre d'heures travaillées, on l'a vu, est sans conteste ce qu'il y aurait de plus rapide et de plus facile à mettre en œuvre pour sauver la planète. Au plus fort de la crise de la dette grecque, la quasi-totalité de l'opinion publique allemande estimait qu'il ne fallait pas annuler la dette, car les Grecs n'étaient que des feignants et des nantis. Pourtant, des statistiques montraient que les salariés grecs travaillaient plus d'heures en réalité que leurs homologues allemands. On les contrait en affirmant que, même si c'était vrai sur le papier, les Grecs se la coulaient douce au boulot. À aucun moment, on n'a entendu suggérer que c'était peut-être les Allemands qui travaillaient trop, générant une surproduction qui les obligeait, in fine, à prêter de l'argent à des pays étrangers pour que ces derniers puissent importer leurs biens. Personne non plus n'a souligné que la capacité des Grecs à jouir de la vie était remarquable et méritait d'être prise pour modèle. Autre exemple, plus ancien. Dans les années 1990, le Parti socialiste français s'est présenté aux élections législatives avec un programme prévoyant l'instauration de la semaine de travail de 35 heures. J'ai été frappé, à l'époque, que pas un seul média américain, parmi ceux qui daignèrent mentionner l'information, n'ait émis l'idée que la réduction du temps de travail était bonne en soi. Tous présentaient la mesure comme un moyen de faire reculer le chômage. En d'autres termes, permettre aux salariés de travailler moins ne pouvait passer pour un bienfait social que si cela aboutissait finalement à mettre plus de monde au travail. Les éditorialistes sont les moralistes de notre temps. Ils sont un peu l'équivalent laïque des prédicateurs. Lorsqu'ils s'expriment à propos du travail, leurs arguments reflètent une tradition théologique très ancienne qui voit ce dernier comme un devoir sacré, un malheur autant qu'une bénédiction, tandis que les hommes seraient d'incurables pécheurs, des paresseux qui ne manqueront jamais d'essayer de se dérober à l'effort s'ils le peuvent. L'économie elle-même est née sur le socle de la philosophie morale, la discipline qu'enseignait Adam Smith, laquelle était, à l'origine, une branche de la théologie. Ainsi, de nombreux concepts économiques plongent directement leurs racines dans la doctrine religieuse, et les controverses autour de la notion de valeur sont toujours plus ou moins teintées de religion. Certaines idées sur le travail, qui relevaient au départ de la sphère théologique, sont désormais si universellement admises qu'il est devenu tout bonnement impossible de les mettre en doute. Si vous espérez être pris au sérieux dans le débat public, ne contestez jamais que tous ceux qui bossent très dur sont dignes d'admiration, indépendamment de la nature de leur activité. Ne cherchez pas non plus à nier qu'une personne qui tente d'esquiver le boulot est foncièrement méprisable. Si quelqu'un déclare « telle politique permet de créer des emplois » et que vous rétorquiez « peut-être, mais je pense qu'il y a des emplois qu'il serait préférable de ne pas créer », ce sera considéré comme inadmissible. Je le sais parce qu'il m'est arrivé de le faire face à des mordus de politique, juste pour le plaisir d'observer leur mine outrée. Aventurez-vous à énoncer une seule de ces affirmations, et tout ce que vous pourrez dire par la suite sera automatiquement discrédité, comme le seraient les divagations d'un provocateur, d'un clown ou d'un fou. Les moralistes réussissent donc à nous convaincre qu'il ne faut surtout pas faire d'esclandre si les jobs à la con se multiplient comme des petits pains. L'idée communément admise étant que tout travail, quel qu'il soit, est un devoir sacré, par conséquent forcément préférable à pas de travail du tout. Et pourtant, nos critères sont bien différents lorsqu'il s'agit de notre propre emploi. Nous voulons qu'il poursuive un but ou qu'il ait un sens. Et découvrir que ce n'est pas le cas nous décourage profondément. D'où cette autre question. Si le travail n'est pas une valeur en soi, en quoi est-il une valeur aux yeux des autres? Quand quelqu'un déclare que son boulot ne vaut rien ou n'apporte rien de bon à personne, il raisonne à partir de la notion de valeur. De quelle sorte de valeur parle-t-on ici? Le terrain de la valeur a toujours été âprement disputé. Aucun consensus ne semble pouvoir être atteint quant à ce que recouvrent précisément des termes comme « vérité »,« beauté », »,« amour », »,« démocratie », qui désignent pourtant des choses que tout le monde s'accorde à trouver désirables. Si curieux que cela puisse paraître, c'est vrai aussi du concept d'argent, dont la nature exacte fait l'objet de controverses parmi les économistes. Les débats autour de la valeur du travail, en particulier, sont importants à examiner, car ils ont manifestement tout mis sans dessus-dessous. Comme nous allons le voir, les individus perçoivent bien la valeur sociale de leur travail. Mais nous vivons dans une société où celle-ci, en règle générale, est inversement proportionnelle à la valeur économique. Plus mon travail bénéficie aux autres, moins je suis susceptible d'être payé pour le faire. Et, pire encore, il est largement admis que cette situation est moralement juste. Aux yeux de beaucoup, c'est ainsi que les choses doivent être. Il faut récompenser les comportements inutiles, voire destructeurs, et punir les gens qui, par leur dur labeur quotidien, rendent le monde meilleur. C'est un raisonnement d'une incroyable perversité, et il va nous falloir fournir quelques efforts pour comprendre comment il a pu apparaître, puis se répandre.